se rend compte, les brasseurs de nation, en fait, c'est la première fois qu'on fait ça un petit peu plus organisé. Je vous avoue, il y a le 2 avril, on était 7000 personnes dans un restaurant. C'était plus un moussaillage, puis je vais vous en parler dans deux minutes. Puis là, c'est comme pour la première fois qu'on s'organise, c'est un petit peu plus formel, dans le sens qu'il y a des gens qui ont le temps de venir, puis on avait un petit peu plus de documents. J'aimerais ça, Jannick, je suis un petit peu gêné, vous avez posé son soir ici tout de suite. Tantôt, quand on fait une discussion, Jannick avait un bon des réunions à la fin. J'aurais voulu la proposer tantôt, puis elle me ramène à l'or si j'annonce tantôt. Ce serait le fun tantôt, après, c'est un tour de table. Ce serait le fun qu'on ait un point de vue de tout le monde un petit peu. Là. Qu'est-ce que vous faites ici ce soir? C'est le fun. Puis, mais des fois, on s'étend. Non, mais Jannick est bonne, quand elle est bonne, elle est bonne. Alors, Jannick Brault, donc, travaille avec moi, le département de composite. Tantôt, quand on discutera, ce sera la fin qu'elle nous rejoigne en avant. Ça sera notre père Fouettard. Mère Fouettard. Bon, allez, rebonjour tout le monde. Alors, le 2 avril, dans le fond, on était en train d'élaborer le projet. On dit, tiens, on va aller au restaurant, puis on est allé au Prince Café, là, près du Walmart. Finalement, on est parti là assez tard, mais on avait jasé un bon 4 heures de temps. C'est un peu là que la stratégie globalement, c'est de préciser un petit peu plus comment on fait opérer. Il y avait des gens de différents points de vue, c'était une soirée vraiment intéressante. Puis là, après ça, le concept est élaboré. Préciser un petit peu. On avait déjà choisi le nom, on savait pas trop comment on ferait ça. Donc, pour vous donner le contexte, c'était quelques jours après le 26 mars. En fait, les bonnes soeurs de la nation, comme je disais, le concept est apparu pas mal à cause des élections provinciales, mais pas à cause, mais disons que l'idée d'incorporer un groupe de réflexion, mais que les gens aient une intention évidente de vouloir s'insérer dans le processus des partis politiques. Parce que, oui, il y a beaucoup de gens en dehors, pas du politique, de ce qu'on appelle la société civile. Mais dans beaucoup de contextes, malheureusement, la société civile n'a pas un accès tellement efficace ou direct avec les élus. Puis en plus, ben, ce qui est arrivé avec les élections, l'état de choc du résultat des élections, fait comprendre à bien des gens que finalement, voter, ça demande peut-être un petit peu de compétences, en guillemets, il y avait comme un désarroi généralisé qu'on pouvait sentir. Mais quand on s'était sur le restaurant, on avait fait un bilan un petit peu de ce qu'on venait de vivre comme population au Québec. Donc, c'était en filigrane un petit peu de nos discussions. Mais il reste que pendant les 6 semaines après qu'il avait précédé les élections, il y avait un intérêt évident des gens pour le processus. Puis, voyant ça, avec Simon et d'autres, d'ailleurs, je dirais que ce concept-là, c'est plus l'année passée qu'il a suggéré, c'est revenu cette année. Puis, c'est une idée qui a fait son chemin tranquillement. Puis, le 2 avril, ça s'est coagulé un petit peu plus. Ah bon? Ok, je pense que c'était la télévision. Est-ce que je vais disparaître maintenant? Puis aussi, je me souviens, le 2 avril, il y avait des gens très péquistes qui étaient très passionnés. C'était fort, c'était une soirée très amusante. Mais globalement, on faisait le constat que, un peu comme certains journalistes, on trouvait ça un petit peu spécial. Tout le monde se disait, il n'y avait pas beaucoup d'idées dans cette campagne-là. Puis tous ceux qui disaient, il n'y avait pas beaucoup d'idées, il n'y avait pas beaucoup qui suivaient avec une deuxième phrase, tiens, j'en ai rien à proposer. Il y avait comme tout le monde pouvait faire le constat. Il semblait y avoir une absence d'idées concrètes sur lesquelles on pouvait bâtir quelque chose. Les gens disaient, il semble que les candidats proposent rien. Mais tous les commentateurs politiques ont le droit de proposer aussi. Puis ils ne proposaient pas. Puis dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui proposait. Hein. Il y avait une espèce de désert au niveau des idées. Puis c'était pas mal, cette idée-là avait frappé un peu tout le monde. On en avait discuté pas mal abondamment. Puis. Les élections, je me souviens, on est même avant les élections, puis moi, vous savez que je suis sur l'exécutif du Parti québécois ici dans le Réau. Puis, à un moment donné, on discutait, on se disait, finalement, on reconnaissait même au Parti québécois comme dans les autres partis. C'est que tout le monde disait, ben, regardez, moi, j'ai 3 milliards et demi, je vais couper l'assiette fiscale comme ça, l'autre parti, ah non, moi, j'ai la même assiette, je vais la couper différemment. Et finalement, tout le monde disait, moi, je vais couper l'assiette d'une certaine façon, mais il n'y a aucun des trois partis qui a eu l'idée de dire, peut-être que l'assiette, on pourrait l'agrandir. Hein, les revenus fiscaux, là, ça vient d'où ça? Il y aurait peut-être moyen de relancer l'économie. Puis au lieu qu'on se chicane sur où est-ce qu'on va couper, mais qu'à la place, on ait assez de ressources pour ce qu'on a besoin. Puis ça, c'est pas sorti tellement non plus dans la campagne électorale. Ce qui fait que, sans que ça soit évident chez les gens, là, ce que j'ai remarqué depuis quelques années, puis ça, je trouve que ça monte tranquillement, on le voit partout en Occident. C'est tranquillement l'absence de croissance réelle de l'économie publique en Occident au complet, pas juste au Québec. Fait en sorte que, je pense que beaucoup de gens pensent que, ultimement, la croissance n'est plus possible, d'autant plus qu'on pollue, hein, les eaux polaires vont se noyer l'été prochain, ça va tout le monde. On pollue beaucoup, puis c'est une catastrophe qui s'en vient. Donc, de toute façon, là, il faut réduire. Hein. Alors, on n'en est pas à dire, on va croire. Donc, ultimement, il y a beaucoup de gens qui, sans des fois même y avoir pensé de façon bien explicite, commencent à douter que la croissance réelle, physique, soit possible. Ce qui fait que quand un politicien lève la main, il dit « Moi, je pense qu'on pourrait faire ceci. » Bien, ça va prendre des ressources. Et si, ultimement, on n'y croit pas que c'est possible de rajouter des ressources dans le processus, bien, on pense qu'il est mental, puisque c'est pas possible. On en est rendu quasiment là, il y a un cynisme qui est tellement profond, qui émane de ça, d'un pessimisme de fond, vraiment un pessimisme fondamental que souvent on ne peut même pas s'avouer à nous-mêmes. Puis ça, je l'ai senti un petit peu pendant la campagne électorale, puis après, c'est que les politiciens se retrouvent un peu coincés. S'ils promettent rien, ils ne seront pas élus. S'ils promettent, les gens disent ben, finalement des inventeurs parce que ça ne se peut pas d'accroître l'économie. Puis en plus, regarde, on ne peut pas pour réduire la consommation d'énergie, il faut respecter le protocole de Kyoto. C'est pas simple. Mais dans le fond, beaucoup de gens, à cause de ça, se découragent du processus politique. Ils décident de ne plus s'intéresser. En même temps, c'est sûr qu'ils ne veulent pas la dictature. Donc, qu'est-ce qu'ils font? On ne sait pas trop. On délègue à la fois notre compréhension du monde et l'organisation du futur à des gens qu'on méprise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est des sujets un peu qu'on avait discuté le 2 avril. On se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a le désert d'idées, les gens ont peur de suggérer. Puis, bien, nous autres, on avait un projet depuis plusieurs années. L'année passée, on avait commencé quelque chose qui s'appelait l'Académie pour le bien commun. Puis on s'est dit, ouais, là, l'Académie, on se disait, on va rester en dehors du processus. Mais là, je sentais une certaine ferveur, Simon, puis d'autres à qui on jasait, que quand il y a eu l'intention d'intervenir tout de suite dans le processus, on dirait que ça stimule un peu plus. Il y a comme une action rapide qui s'en vient, puis il y avait une réponse plus intéressante, puis on s'est dit, pourquoi on n'agirait pas de l'intérieur? Mais là, il y a des gens, moi je suis aussi sur l'exécutif du Bloc québécois, du Parti québécois, comment faire pour participer au processus, mais en même temps ne pas être assimilé à des porte-parole du parti politique? Mais peut-être que c'est d'avoir un peu de réflexion qui serait un petit peu à côté, avec les coups des franges, ou par contre, tout ce qu'on a le goût, on devient plus compétent. Et si ça peut nourrir la réflexion au sein du parti politique, pourquoi pas? C'est un petit peu l'approche qu'on s'était dégagée de l'avril. Puis là, ben, ça a évolué, on a écrit quelques pages, puis ben, là, voilà, ce sont les 15 ce soir. Puis tantôt, on fera un tour de table, on va avoir une idée de ce que vous pensez de ça. Mais je vais commencer sur une petite feuille, sinon ça va être trop. Alors, globalement, puis si on va le voir, on va prendre 2 ans pour passer à travers tout ça, c'est que. Avec Simon en particulier, puis nos conjoints, ça fait 18 ans, puis il y a Benoît qui est pas là ce soir, Serge Lavois, lui aussi, ça fait longtemps qu'on en discute, parce qu'il y a les cheveux plus gris, lui aussi. Avec Internet qui est apparu il y a quelques années, ce qui s'est dégagé, c'est qu'il y a des milliers de personnes, des centaines de groupes à travers le monde, qui sont devenus très, très, très compétents, qui ont mis sur Internet le fruit de leur réflexion. Puis, finalement, l'humanité a une capacité de croître à peu près au même rythme que la Chine actuellement, qui croît à un rythme physique d'environ 10% par année. Toute l'humanité pourrait croître comme ça. Pas croître nécessairement en quantité, mais en qualité, en termes de ce que l'on produit pour assurer, dans le fond, soutenir la vie humaine. Puis, il y a de l'énergie pour l'éternité, pour l'humanité. À la demande, on ne parle pas d'énergie solaire ou éolienne, il y a de l'énergie pour l'éternité. On va revenir là-dessus. Il va y avoir un livre complet juste sur l'énergie. Alors, les perspectives de croissance à long terme sont illimitées pour l'humanité. On est convaincu qu'on, dans le fond, c'est pas une opinion. On va essayer de documenter avec beaucoup de références tout ce qu'on va proposer dans ce sens-là. Puis, c'est le défi qu'on vous lance de rester autour assez longtemps pour pouvoir nous prendre en défaut si on se trompe, mais on est en fond plusieurs à converger vers cette conclusion-là depuis des années. Puis aujourd'hui, on a comme le goût de le faire de façon plus. Ouverte, parce que dans un dialogue, c'est important que ceux avec qui on veut parler puissent nous donner du feedback. Puis je pense qu'on aura tous notre rôle à jouer là-dedans. On va, tantôt, je vais revenir là-dessus. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'indépendamment de la vision qu'on a du futur, éventuellement, il y a le concept de souveraineté qui apparaît. C'est pour ça qu'au Québec, on a une situation particulière politiquement à cause du fameux mouvement souverainiste, parce qu'on était une minorité francophone il y a 40 ans. Les anglophones, c'est lui qui avait le contrôle du processus politique. Donc, c'était facile pour les francophones de dire il y a comme quelque chose de l'extérieur de nous qui essaie de nous utiliser. Donc, les gens se sont braqués, se sont construits une identité, ont voulu combattre ça. Il y a eu la révolution tranquille au Québec. Mais là, on est rendu 40 ans plus tard. Il y a encore des gens qui rêvent que le Québec soit politiquement séparé du Canada, mais qui ont quand même, en filigrane, toujours gardé en mémoire ce désir de souveraineté au sens large. Puis ça fait qu'au Québec, peut-être plus qu'ailleurs, la réflexion sur le concept de souveraineté est plus avancée qu'ailleurs. Puis là, il est important de faire la différence entre souveraineté et séparation. Parce que, en démocratie, ce qui est merveilleux de la démocratie, c'est que tout le monde peut participer au processus. Ce qui est exigeant en démocratie, c'est qu'il faut sortir de chez soi, se réunir, jaser, débattre, devenir compétent, entre autres. Ça, c'est le côté plus fatigant de la démocratie. Mais, essentiellement, lorsque une population décide d'aller de l'avant, bien, elle peut avoir tous les pouvoirs sur son territoire pour assurer le bien commun. Alors, le concept, dès qu'on est dans la démocratie, le concept de souveraineté apparaît tout de suite, parce que vous avez une population qui veut être bon, qui essaie de s'améliorer, qui fait des propositions, des hypothèses, et on devrait s'organiser de telle façon. Ça veut dire tout, on parle de système monétaire, économique, tout. Là. Puis là, on essaie d'avancer, puis là, on peut réaliser si sommes-nous souverains ou non. Dans le fond, on a besoin de pouvoir essayer ce qu'on a voulu essayer après avoir réfléchi. C'est ça, ultimement, la souveraineté. C'est pour ça qu'en théorie, la souveraineté, elle a du sens seulement si elle n'a pas de limite. Dans la mesure où on est bien international, par exemple. Évidemment. Puis un pays, il n'y a pas de souverain, mais il y a des voisins. Donc, on est limité dans les faits. De toute façon, on veut être limité à ce niveau-là. On ne veut pas nuire aux pays voisins. Au contraire, on veut l'aider, on veut collaborer. Fait que la notion de souveraineté est indépendante de l'orientation politique qu'on pourra avoir. Il n'y a personne qui veut la dictature. Donc, on veut être libre d'essayer ce qu'on pense qui est le mieux pour notre pays. Okay. Fait que c'est vrai pour tous les partis politiques, ça, dans le fond. Sauf que, actuellement, les partis qui se disent fédéralistes au Canada, ils disent que le Canada est souverain. Donc, je n'ai pas essayé de savoir de quoi ça a l'air pour être souverain. Comment ça fonctionne? On est souverain. Alors, si on est déjà souverain, je travaille. J'ai même pas besoin de réfléchir à savoir ce que ça veut dire, la souveraineté. Tandis que le mouvement souverainiste au Québec, essaie depuis 40 ans de dire, ouais, ça a l'air de quoi, ben, il y a des souverains. Ça veut dire quoi, le souverain? Ça veut dire quoi pouvoir décider par soi-même ce qui est bon pour notre pays, pour nos enfants, puis pour le futur? Mais, malheureusement, avec les années, le désir de souveraineté a été beaucoup associé au fait de se séparer politiquement. Puis, à un moment donné, on a peut-être oublié de mettre du contenu dans le concept. Fait que c'est comme si, à partir du moment où on aurait été séparés, on devient souverain. Pas sûr. Il y a un petit pays au nord d'Afrique du Sud qui s'appelle le Lesotho. Il y a un siècle avec une espérance de vie de 35 ans. Ils sont souverains. Okay. Donc la souveraineté comme telle, ça peut avoir un sens assez large. Comme là au Canada, milliards en frais d'intérêt depuis 20 ans. C'est nous qui avons organisé le système bancaire. La façon qui est faite, on a payé 1000 milliards en frais d'intérêt sur la dette publique depuis 20 ans. Est-ce que c'est quelque chose que la population a fait volontairement? Est-ce qu'on a décidé ça, nous, autour de la table? Pas sûr, là. Est-ce que la population du Canada est souveraine de cette revenus monétaire? Bref, est-ce que le Canada est souverain? C'est un peu l'intention qu'on va avoir. Les bâtisseurs de la nation, on veut regarder ça d'un point de vue plus large. Il y a 180 pays, grosso modo. La définition de pays n'est pas tout le temps parfaitement claire, mais bref, environ 180. C'est quoi un pays souverain? Ça fait quoi de particulier un pays qui est souverain? Quel niveau de contrôle il a sur ses politiques monétaires, sur les politiques économiques? Est-ce que c'est clair? Si on voit, on fait un sondage sur la rue, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'on a une bonne idée de ce que c'est? Un pays souverain. Peut-être qu'il faudrait partir de ce point de vue-là. C'est quoi un pays souverain? Là, on verra si on ferait quelque chose de différent du Canada, si jamais l'histoire fait en sorte qu'il y a une rupture de son idée politique au Canada. Ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver, personne n'est devin. Mais le Québec, qu'est-ce qu'on fait de différent? Ce serait peut-être la forme de discuter de ça. Alors, ouais, au Parti québécois et au Bloc québécois, ils sont coincés parce qu'on a le fardeau de la peur. Puis, ça serait le fun de pouvoir nourrir cette discussion-là. Alors, une bonne façon de savoir, d'essayer de savoir si on est souverain, je pense que c'est. Imaginez que vous auriez soudainement une connaissance ésotérique complète de l'univers humain, puis vous seriez capable de designer un projet fonctionnel, vraiment qui marche. Un bon taux de croissance annuelle, on produit un surplus qui permet de dépolluer, de remplacer les voitures de nos écoles, de faire fonctionner les hôpitaux la fin de semaine, la nuit. Puis là, vous êtes vraiment, vous avez une bonne idée des politiques monétaires, comment vous pourriez procéder à la création monétaire pour investir dans l'infrastructure. Là, vous essayez de mettre ça en marche dans l'univers social dans lequel on est, avec vos financiers, les politiques, ceux qui vont vous donner pour les politiciens. Là, vous essayez d'avancer, vous faites quoi? Vous allez peut-être trouver certains petits obstacles. Donc, une bonne façon de savoir si on est souverain, ça serait peut-être d'essayer de designer le pays souverain. Donc, de construire, de s'imaginer en train de bâtir un pays, une nation souveraine. Puis là, on va voir comment l'impact que ça va avoir autour de nous. Donc, si on avance avec un projet qui est vraiment fonctionnel, qui est potentiellement fonctionnel, là, on va voir apparaître des obstacles. Mais ça serait peut-être une bonne façon de savoir si on est souverain. Parce que si on discute avec les gens qui sont fédéralistes, eux, ils vont dire le Canada est souverain. Le critère, c'est qu'on siège à nous. Alors, je pense que pour savoir si on exploite tout le potentiel que l'univers physique nous permet d'utiliser, nous, on a un potentiel intellectuel, socialement, on a ce qu'on appelle la culture, hein, on profite des 5000 ans qu'on passe avant nous. On jette un regard sur l'univers, on fait des hypothèses, on essaie de construire des machines, de comprendre les lois de la physique, les lois des sciences de la vie, puis on essaie de construire un projet. Alors, ce que nous, on propose avec les bâtisseurs de nation, c'est d'élaborer un projet qui est fonctionnel. On ne traitera pas nécessairement de tout, mais les outils principaux dont on a besoin. Fait que si on devient, entre guillemets, compétent, on va savoir s'il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire à cause de certaines nuisances. Ils sont peut-être pas nécessairement de l'extérieur, ils sont peut-être de l'intérieur. Parce que souvent, c'est ça qui est arrivé dans le débat souverainiste au Québec, c'est que la nuisance, on la voit toujours à l'extérieur. Il ne faut pas si sûr que ça, que la nuisance vient juste à l'extérieur, un peu aussi à l'intérieur, et dans le processus. Puis, une bonne façon de les découvrir, les nuisances, c'est justement d'essayer d'avancer à ce niveau-là. C'est ce qu'on vous propose, c'est qu'on va essayer tous ensemble de devenir compétents. On va en parler tantôt. On a fait un petit bout, là, ça fait 24 ans que je suis très intéressé à ça. Il y a eu des années où je mettais 20 heures par semaine, d'autres j'en mettais 5, d'autres j'en mettais 10. Puis maintenant qu'Internet est arrivé, ben là, c'est quand qui aimait la série Star Trek avec l'ordinateur à qui on peut poser toutes les questions. Et aujourd'hui, on a Internet. Puis, tout ce dont l'humanité a besoin pour y arriver, on l'a déjà. D'ailleurs, les Chinois, c'est pas des magiciens. Ils réussissent à croître à un rythme de 10% par année. Il y a des choses qu'ils font qu'on ne fait pas en Occident. Il y a des choses qu'ils pourraient faire eux encore mieux, c'est sûr. Mais on a depuis Colbert, on a commencé à tester les principes dans l'univers qui nous permettent de savoir qu'on est capable de croire de façon indéfinie. Puis, il y a bien des choses qu'il faut finir. Il y a des avenues qu'on sait qu'il y a des belles recherches à faire, il y a un projet à proposer. Il va rester un peu de recherche à terminer pour pouvoir converger vers quelque chose de concret. C'est pour ça que savoir si on récite de devenir compétent, on va proposer ensemble à tout le monde un projet qu'on appelle l'économie physique et physique humaine. Dans le fond, le lien qu'il y a entre tout ce que ça prend pour produire ce qu'on doit exister, l'économie physique et humaine, indépendamment de l'aspect monétaire, et l'impact que ça a sur la dignité des gens. Et ça, c'est comme une grosse série. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans. Donc, c'est assis, on a discuté longuement, on l'a coupé en six idées principales. Ils sont d'ailleurs dans le document qui va être un petit peu de plein d'introduction sur le site web dont Simon va vous parler tantôt. Alors, 6 thèmes, 6 livres, 6 conférences. Fait que la stratégie, dans le fond, c'est que on va développer en. Si vous, dans le fond, c'est pour ça que je vous invite ici ce soir, j'espère qu'on va être de plus en plus nombreux. C'est que les thèmes, pour les développer, pour les rendre les plus clairs possibles, ce serait super le fun, parce qu'à mesure qu'on va produire des textes, il y aura des communautés aussi, tout ça. Quand on produira des textes, vous avez plus plaisir à les lire. Ce sera de vous donner une rétroaction. S'assurer, dans le fond, que c'est compréhensible ce qu'on produit. De tranquillement, en cours comme ça, on pourrait produire des choses qui sont vraiment, ils vont être très intéressantes, très faciles à comprendre, qui vont permettre de fixer des idées bien précises sur les 6 grands sujets, dans le fond. Juste pour fixer les idées, parce que je sais qu'il y en a qui sont un petit peu nouveaux ici ce soir. Je vais essayer de prendre 60 secondes à peu près sur chacun des thèmes. Donc, les 6 grandes idées, là, la première, c'est est-ce que les humains, c'est un accident sur la planète? Ou si les humains peuvent donner la conscience, la garantie, la survie à long terme de la planète? Okay. Il y a des gens qui pensent qu'il y a 6 milliards d'êtres humains de trop sur la planète. Il y en a d'autres qui disent qu'il n'y a que les humains qui vont peut-être pouvoir dévier la prochaine météorite qui risque de faire la Terre ce qu'elle a fait au dinosaure il y a 35 millions d'années. Vous savez qu'il y a une météorite qui va passer très près de la Terre dans une trentaine d'années. Il y a déjà un comité qui travaille pour savoir comment la dévier si jamais ça se confirme qu'elle va frapper la Terre. Il n'y a que les humains qui pourront empêcher une catastrophe du type qui est arrivé, qui a exterminé presque toutes les espèces vivantes il y a 65 millions d'années. Nous, notre point de vue, c'est que la Terre, consciente de ce d'elle-même maintenant, avec nous, est bien en meilleur état pour se protéger contre les aléas de mer nature, entre guillemets. On peut penser qu'il y a 12 000 ans, ici, il y avait 2 à 3 km de glace. C'est pas trop fort pour les rivières, sur le dessus. Difficile un petit peu pour la biodiversité quand il y a 30 millions de km carrés couverts de glace. Alors, dans l'hémisphère nord, à tous les 100 000 ans, on est sous la glace pendant 90 000 ans, puis on dégèle pendant 10 à 15 000 ans. Ça varie un petit peu, parce que différents cycles se combinent. Donc, l'orbite de la Terre est variable dans sa forme, ce qui fait que c'est inévitable. Il y a eu 20 glaciations dessus. Une bonne chance qu'il y en ait eu 21. Mais on sait très bien que les humains, avec juste les rejets thermiques des centrales d'électricité que nous allons construire, les humains, dans les prochaines années, on serait capable d'empêcher la planète glaciaire d'avancer. Lors de la prochaine initiation. Il y a juste l'intelligence humaine qui est capable de faire ça. Donc, on pourrait sauver tout ce qui vit sur la Terre sur une surface de 30 millions de kilomètres carrés. Je ne crois pas que les animaux puissent faire ça. Et donc, est-ce qu'on est une catastrophe écologique? Ou est-ce qu'on est plutôt la survie à la longue durée de la planète? Notre point de vue, c'est qu'il n'y a rien de plus à la fois beau et puissant que les êtres humains. Mais à condition qu'il y ait un pourcentage important de la population qui s'assure que c'est notre beau côté qui ressort. Actuellement, il y a peut-être un petit déficit démocratique sur la planète. Peut-être que les réunions qu'on tient à soi, il n'y a pas assez sur la Terre en ce moment. Puis que c'est peut-être pas notre meilleur côté qui ressort. Et notre point de vue, c'est que, en plus de peut-être voir à long terme, là, c'est très spéculatif, ralentir une glaciation, c'est une chose où on a quand même 30 millions de kilomètres carrés aussi de désert. On pourrait très bien irriguer et ramener la vie. il y avait de la place pour bien des animaux, des milliards d'animaux supplémentaires. C'est la partie de la planète qui fait le plus chaud, où on peut produire la nourriture le plus facilement. Puis, c'est à notre portée, ces choses-là. Fait que je crois pas. Donc, le premier livre s'appellerait L'humanité en évolution, ami ou ennemi de la biosphère. Vous vous doutez, nous autres, de la réponse qu'on pense qui est la bonne. Puis, on va proposer cette idée-là dans le premier bouquin. Ça sera le premier projet durant l'été. On aimerait qu'au début de l'automne, ce premier projet-là soit sorti des primaires. Ça va être un objectif infernal, mais je pense qu'on quand on a le bon objectif, c'est là qu'on avance. Le principe d'économie physique, bien, ça date de 200 ans. On va remonter jusqu'à Colbert, puis on va regarder comment on fait pour économiser de la main-d'œuvre. C'est le grand principe que Leibniz a découvert. Quand on économise la main-d'œuvre, la même partie des humains produit davantage de choses. Leibniz aussi a mis au point des machines thermiques à base de charbon. C'est une révolution scientifique. L'humanité a passé de 600 millions à 8 milliards grâce à la chaleur. Donc, les principes d'économie physique, ça, c'est un niveau qui est très, très, très important. Parce que c'est grâce à ça qu'on peut savoir qu'effectivement, on est capable de soutenir un progrès à long terme de besoin infini. Alors, le livre numéro 2, c'est pas ça, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus connu, mais qui est moins bien compris. Quand on recule dans le passé, ce qui est intéressant, c'est que l'économie humaine est beaucoup moins développée. C'est plus facile de comprendre les principes de base. Les mêmes principes ça fait aujourd'hui encore. Puis, ce livre-là, dans le fond, le principe d'économie physique, c'est l'aspect positif. L'aspect négatif, actuellement, que l'on vit sur la Terre, ben, c'est la mondialisation, malheureusement. Donc, de comprendre les principes d'économie physique va nous faire comprendre que la mondialisation nous empêche de construire l'infrastructure qu'on a besoin pour soutenir la vie humaine. C'est des principes physiques qui vont nous faire comprendre que c'est pas pour rien qu'il y a un accroissement, hein, la différence entre les riches et les pauvres, c'est à cause de la mondialisation, puis c'est des raisons physiques. Donc ça, c'est dans le livre 2 pour voir ça. Puis après ça, est-ce qu'on peut financer le progrès sans peut-être payer une avance de 6% au milieu financier? On l'a déjà fait. Les Américains, surtout. On l'a fait au Canada pendant les fonds de guerre. Fait qu'en 1939, on était tous à genoux. On a 10 ans qu'on était en dépression. Tout à coup, on a dit, il faut sauver la mère patrie dans le Canada. 4 ans plus tard, l'économie avait doublé au Québec et au Canada. Aux États-Unis aussi. Donc, on peut utiliser une banque nationale pour pouvoir investir beaucoup de ressources dans le support du travail humain, c'est-à-dire les infrastructures. Au Canada, on devrait remplacer et construire de nouvelles infrastructures au rythme d'environ entre 50 et 80 milliards par an. On le fait au rythme d'environ 6 milliards. Ça veut dire qu'on s'en va comme ça. On utilise les infrastructures qu'on a conçues pendant les 60 premières années du 20e siècle. Après ça, on arrête de construire l'infrastructure. Et on s'en va comme ça. Donc, il va falloir reprendre le contrôle de notre banque nationale. Mais la Banque du Canada, c'est une banque que M. Martin appelait indépendante, tout simplement. La Banque du Canada, c'est les banques centrales, c'est le principe, elles sont indépendantes des députés, c'est pas vrai. Alors, ben voilà, on emprunte des banques privées pour financer les infrastructures. Alors, on n'en construit pas des infrastructures. Quand on a fait l'effort de guerre, on ne va pas emprunter des banques privées à 6% pour faire l'effort de guerre. On a mis des crédits productifs à 1%. Il y a des gens qui ont écrit deux gros bouquins sur les finances de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai réussi à les trouver en usage pour l'usager. Fait que je vais en parler dans ça. Donc, on va en parler d'une politique monétaire pour être capable de soutenir l'investissement dans la. Dans les infrastructures et bien éclairé par les principes d'économie physique, on va mettre tout ça ensemble. Puis ça devrait devenir plus clair. Mais tout ça, ça demande un effort. On ne fera pas ça avec des muscles. Okay? On ne peut pas produire 30 à 40 000 $ de richesses nouvelles par personne dans le pays avec la force musculaire. Ça demande l'énergie. Puis, je vais passer très vite là-dessus. Bref, l'énergie, actuellement, si on veut vivre comme les Français, il faudrait que. Les Français sont les gens qui utilisent l'énergie le plus efficacement. Environ 6500 watts par personne, puis au niveau de vie, il est supérieur aux Québécois. Nous, ben, il fait froid, les distances sont grandes. Alors, eux, à 6500 watts par personne, ils ont un niveau de vie en garde. Mais si vous multipliez ça par 6 milliards et demi de personnes, il faudrait que l'humanité consomme 3 fois plus d'énergie. À ce rythme-là, dans 2 ans, il y aurait. Si on, vous donnez une idée, là? Imaginons que tous ces besoins-là sont comblés par le gaz naturel dans 2 ans, il y en a. Si tous les besoins énergétiques des humains au rythme des Français sont comblés par le pétrole, dans 5 ans, il y en a. tous nos besoins sont comblés par le charbon, dans 25 minutes. Donc, si l'humain utilise l'énergie à un rythme qu'on considère minimal pour la dignité, on fait 25 plus 5 plus 2 dans 30 deux ans, il n'y a plus qu'à besoin possible. On a dit par là. Ça, c'est de notre vivant ici. Il n'y a plus qu'à besoin possible si on éradique la pauvreté. Ça, c'est une réalité physique. Ça. On ne peut pas avoir peur de la regarder en pleine face. On veut éradiquer la pauvreté, il faut tripler la consommation d'énergie. Ça, il y en a plus d'un qui gèle un petit peu. Il y avait ça, il oublie, il croit sur autre chose. Mais nous, on ne verra pas, on va regarder le problème en pleine face, on va regarder quelles sont les possibilités. Puis, ben, les possibilités sont là parce qu'il y a des gens qui ont au moins des centrales nucléaires qui utilisent des déchets nucléaires comme source d'énergie. Et dans les déchets nucléaires, il y a plus d'énergie que dans tous les pétroles connus sur Terre. Et donc, on va détruire ce, cet héritage qu'on pensait horrible, que les gens pensaient qu'on était pris avec eux. Si on veut, dans 50 ans. Et dans le processus, on aura généré 250 000 milliards. 250 000 milliards de dollars d'électricité avec les déchets nucléaires. C'est intéressant. Puis après ça, ben, sur une belle lancée comme ça, pourquoi pas continuer? L'uranium dans des centrales comme ça, ça ne produit pas de déchets. Puis l'uranium, ben, il y en a 4 milliards, 4 000 milliards de tonnes dans l'océan. Puis l'érosion fait en sorte que la nature remet 30 000 tonnes d'uranium de plus dans l'océan chaque année. Et les Japonais ont trouvé une façon de l'extraire pour 250 $ le kilo. C'est le prix actuel de l'uranium sur le marché. Donc, il y a de l'uranium pour les thèmes. Parce qu'à 20 000 tonnes par année, on fournit l'humanité, puis la nature en fait 30 000 par année. Donc, on va voir ça, on va débarrasser des déchets, puis on va être capable de produire de l'électricité à la demande pour des centaines de millions d'années. Ça, c'est quand même assez renouvelable. Parce qu'on n'aura même pas besoin de faire ça. Un jour, on va apprendre à faire fusionner les atomes d'hydrogène pour faire comme dans le milieu du soleil. Donc, on va faire de la fusion nucléaire, donc pas de la fission. Puis ça, ben, l'océan, il y a quelques molécules, il y a quelques atomes d'hydrogène dans l'océan. H2O. Donc, de l'énergie, il y en a pour toujours. Okay. Il y a assez de réserves d'énergie sur Terre avec l'énergie nucléaire. Autant l'énergie des gros noyaux que l'on casse dans l'uranium, où il est distribué l'hydrogène. Il y a plus d'énergie qu'on ne pourra jamais en consommer avant que le soleil crève dans 4 milliards, 4 à 5 milliards d'années. Il va falloir que l'humanité soit partie de toute façon avant même qu'on ait épuisé les réserves d'énergie. Mais si on a de l'énergie abondante, quelle ressource qui pourrait bien manquer? La croûte terrestre, 5 à 10 km d'épaisseur. De quel atome voulez-vous bien qu'on manque? Les atomes, c'est un peu qu'on manque. On ne manquera pas d'aluminium, un dixième de la croûte terrestre de l'aluminium. Un quart de la croûte terrestre du fer. On ne manquera pas d'atomes. Tout ce que ça prend pour les déplacer, c'est de l'énergie. Parce qu'au fond, c'est ça qu'on fait les humains, on déplace les atomes. Regardez autour de vous, là. On a organisé les atomes, on les a mis là, en place, ils nous servent, ils nous supportent. C'est tout ce qu'on fait, finalement, comme la vie. Tous les processus vivants déplacent les atomes, c'est tout ça d'énergie. Alors, l'énergie, il y en a pour toujours. Puis on va en faire une démonstration assez claire. Je vous avoue qu'il y a 10 ans, on aurait une difficulté à la faire. Mais les surgénérateurs, dont on parlait, on appelle ça les centrales nucléaires de quatrième génération, il y a 10 pays qui se sont mis à la tâche de développer différents types. Il y a 6 filières qui sont développées en même temps pour se trouver la meilleure. Il y a des choses extraordinaires qu'on a mis au point. Il y en a même qui vont pouvoir mettre le carburant là-dedans, sceller ça dans un nouveau tube, mettre ça dans la terre. Ça va fonctionner tout seul pendant 30 ans. Si jamais les gens ils oublient qu'ils ont un nucléaire là et qu'ils s'en vont, ben, elle va se refroidir toute seule et il n'y aura pas de catastrophe. Alors, Toshiba veut construire ça en Alaska bientôt. Alors, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Donc, l'énergie pour toujours, c'est qu'il nous permettrait, en utilisant les pertes de chaleur de ces centrales-là, d'irriguer les déserts. Ça donne que les centrales, le nombre qu'on aurait besoin pour produire de l'électricité au rythme de 6 000 watts par personne. Les pertes de chaleur de ces centrales-là pourraient servir à dessaler nos mers, ça en fait suffisamment pour irriguer tous les déserts de la planète. On parle de 3 mètres d'eau par année sur 30 millions de kilomètres carrés. Ça, c'est à la portée des électrons. Vous imaginez 30 millions de kilomètres de plus qui ont de l'eau en abondance. Ce que ça veut dire pour la planète Terre et la biodiversité. Ça, c'est très écologiste, vraiment. Alors, le livre 5, ça va être sur terraformer la Terre. Puis, tant qu'à faire, pourquoi pas réintégrer le Québec aussi? Parce qu'on a fermé la moitié de l'usine depuis 30 ans. C'est pour ça qu'on a 250 000 milliards de dollars de dette. Puis la dette, on va en parler, là. La dette monétaire, c'est pas un problème. La Banque du Canada pourrait la racheter. Oui, les banques privées font tout. Alors, on va en parler, là. Mais bref, c'est notre dette d'infrastructure qu'il faut payer, puis ça ne va pas payer, c'est-à-dire qu'il faut juste reconstruire selon le niveau. Mais là, tout ça, là, est-ce qu'on va être capable de le faire? Est-ce qu'on va être capable de se donner des institutions démocratiques capables d'assurer qu'on va faire ça sans avoir d'interférence négative de qui que ce soit? Je pense que le meilleur outil pour ça, c'est les souverains. Pas des organismes internationaux. On les voit aller dans les organismes internationaux, c'est ça. On a vu depuis 25 ans le Fonds monétaire international qui a organisé la collecte des intérêts pour 5 000 milliards. On leur avait prêté 500 et on a collecté 5 000 milliards d'intérêts. Donc, là, d'aide au tiers-monde. C'est ça les organismes internationaux qu'on aime. Ah oui, puis nous en avons encore 2 600 milliards sur cette dette de 500. Et les organismes internationaux, souvent, ce n'est pas les meilleures institutions pour protéger les gens dans chaque pays. Je pense que chaque pays a le devoir de protéger les citoyens, ça prend des républiques souveraines. Ils peuvent faire des affaires ensemble. Donc, ça nous prendrait une communauté de républiques souveraines sur la Terre. On a 180 pays, là, on a 180 républiques. Puis chacun, on protège nos citoyens, on s'assure qu'il y a du travail, on s'assure qu'on investit dans l'infrastructure. Ça ne nous empêche pas d'avoir des forums internationaux. Mais pas une institution du genre qui collecte la dette des banques privées. Ça, c'est. Dans un Québec souverain, je ne sais pas si on supporte un organisme qui collecte 10 fois la dette du diamant. Faut en parler aussi. Donc, à la fin, il faut parler d'outils sociaux pour nous permettre d'assurer tout ce beau projet. Puis, c'est une société communauté de république souveraine. On passera en revue l'émergence du concept de république qui est arrivé en même temps que l'émergence du concept de bien commun, avec l'idée en filigrane que tous les êtres humains sont créés égaux, du roi jusqu'à la personne à planète. Ils sont nés de même potentiel, donc ils ont la même dignité. Puis, c'est dans ce contexte-là que tranquillement, on a pu émerger l'idée que les gens pourraient être souverains, c'est-à-dire le concept de démocratie. Bon, d'ailleurs, on sait, il y a un peu plus de 200 ans, ça s'est fait aux États-Unis au début. Bon, il y a eu une démocratie à Athènes pour un citoyen et 10 esclaves. C'était une démocratie, mais pas pour tout le monde. Donc, 2000 ans plus tard, aux États-Unis, il y a eu une première démocratie un peu efficace, puis les autres, ça a fait la fluide, puis il y en a eu plusieurs autres ensuite. Alors, dans le sixième bouquin, on va faire l'historique de tout ce concept-là. Puis, on va regarder si ce serait possible d'avoir une communauté république souveraine, comment accomplir ça. Alors, voilà, c'était juste pour mettre un petit peu, je voulais parler des six sujets pour mettre dans le bain un petit peu de l'ampleur du projet et de la nature, un petit peu, des perspectives que ça peut présenter. Puis, nous autres, maintenant, donc, le dernier point, ça serait. Qu'est-ce qui nous attend, c'est quoi le travail qu'on pourrait faire, comment on pourrait collaborer ensemble. Puis, on va discuter pas mal, on aurait en fait des suggestions à faire, comment on voit ça, mais nous sommes souverains, c'est ça à table, comment on va collaborer, ça c'est à chacun à amener ses suggestions, puis chacun pourra apporter son talent et tout ça. Mais globalement, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous, vous êtes en mode un petit peu observation pour l'instant. Les plus jeunes, c'est normal, vous vous sentez peut-être moins solide sur certaines notions. D'autres, vous avez des compétences particulières dans des domaines. D'autres, c'est du temps, vous avez d'autres, c'est de l'énergie. Mais bref, au début, ce qu'on aimerait vous proposer, c'est que lorsqu'on produira des textes du premier bouquin, déjà, il y aura un bon travail à faire durant l'été. Ça serait de, si vous avez le goût, on vous envoie ça à mesure par Internet. Puis, ce serait de vous faire des suggestions. Puis jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs suggestions. Même les petits textes qui sont là, qui sont juste des textes de présentation qu'on va mettre sur le site web. Entre autres, comme Mathieu qui vous disait, ben là, tu parles de république, puis tu n'as pas défini ce que c'était. Puis quand on a 16 ans, on ne sait pas c'est quoi la république. Parce que dans l'avant-propos du premier bouquin, je disais, j'aimerais ça qu'un jeune de 16 ans comprenne tout. Puis vous voyez, en disant ça, je me suis moi-même bourré, je suis allé parler de république. C'est vrai que le concept de république, assez long, c'est pas ce que c'est. Puis l'autre, Mathieu, tu parlais de Platon à un endroit, mais Platon, c'est pas ce qui est intéressant. Fait que vous voyez que ça va être important, un dialogue, ça se fait dans deux directions. Puis notre but, c'est de produire ultimement des bouquins et des conférences que tout le monde va pouvoir comprendre. Alors, même si des fois vous sentez peut-être pas solide, bien, c'est peut-être ça que ça prend. Parce que si vous êtes obligé de lire écrire une phrase deux fois, la comprendre, il y a un problème avec ta phrase. Parlez. Donc, c'est ne serait-ce qu'une revue efficace des textes au début, là, déjà ça, ça va être extraordinaire comme contribution. Mais, on va aller sinon, on développait, on voyait loin. Là. Il y a d'autres possibilités, évidemment. L'autre étape après ça, mettons, bon, ensemble, on, durant l'été, on produit un bouquin qui a de l'allure, puis tout le monde arrive à comprendre, on va chez l'imprimeur, on l'écrit, on commence à en parler, on distribue. Là, on pourrait venir ici la fin de semaine, donc c'est bien clair, puis faire une conférence sur le même sujet, que là, on va filmer. Puis, avec un montage, puis peut-être 100 ou 150 photos, 50 vidéos, faire un bout des DVD. Tu vas résumer, par exemple, le premier bout. Ça pourrait être des fois, ça va prendre deux conférences d'une heure, d'une heure et demie pour voir l'ensemble du sujet. Il y en a qui sont assez gros, là, parmi les livres qui s'en viennent. Alors, juste ça, d'organiser une conférence, il va y avoir du travail à faire, du montage, trouver des photos, tout ça. Par exemple, si on va avoir le droit d'utiliser une photo, si on va trouver une belle photo sur un site web, il faudrait que quelqu'un écrive un courriel aux gens, regarde, on a un beau projet, ce serait le droit de nous donner les droits sur cette photo-là, qu'on puisse s'en servir dans le livre, qu'on puisse s'en servir dans les DVD. Il y a bien des gens qui ont pris des belles photos dans le site web, qui seraient contents de céder les droits. Ça, c'est un travail à faire, envoyer un courriel. Tu sais, il y a plein de comptes, il y a plein de job à faire dans le fond qui nous permettrait d'avancer plus rapidement. Fait avec un DVD, ce qui est bien le fun, surtout que tu es plus jeune, vous connaissez quelqu'un qui a 18 ans, c'est un livre de 200 pages. Tandis que petite conférence, de 3 heures, ça peut donner une idée, ça peut motiver assez pour là, mettre un peu plus de temps à lire le livre. Le livre, dans les livres, des avantages par rapport à ton autre livre. Bonjour, Télé, ça va.
Là, pour l'instant, je travaille jusqu'à 6h30.
Oh! Alors, donc, ça sera une première étape d'ici au début de l'automne. Ensuite, il y a les bouquins 4 et 5 ont conclu assez intense avec des recherches à faire. Et il y aurait, avec le temps, ce qui serait intéressant, c'est que dépendant de vos intérêts, ça serait pas qu'on forme des comités sur différents sujets. Et qu'on pourrait augmenter nos compétences collectivement dans ce sujet-là. Puis, éventuellement, comme on voit dans différents organismes, en plus d'aider à documenter la rédaction des livres 4 et 5, c'est que, je donne un exemple. Pour ce qui est de la gestion des déchets, à Ottawa, ils vont mettre en marche bientôt une usine. Elle est presque toute finie de construire. Ils ont investi 30 millions. C'est pour faire la pyrolyse des déchets. La pyrolyse, ça veut dire démembrement des grosses molécules à haute température en absence d'oxygène pour éviter la combustion. On monte, donc, c'est une espèce d'enceinte qui monte à température à 8000 degrés. À 8000 degrés, vous pouvez mettre n'importe quoi là, un bloc de granit, si vous voulez. Tout se décompose en atomes. Puis là, tout ce qui est combustible est entraîné, c'est gazeux, c'est entraîné vers la centrale électrique. Tout ce qui est plus dense descend au fond, il est collecté, ça ressemble à de la vitre noire, ce qui sort de là. Il y a besoin de vitrifiant. On parle de recyclage à 100%. Prenez n'importe quel sac de poubelle, un galon de peinture, une batterie au plomb, si vous voulez, vous mettez tout là-dedans. Ça sort, puis éventuellement, si ça sort de là, vous pouvez le ramener dans une usine qui va refondre le tout et séparer tous les éléments chimiques. Plomb, cadmium, mercure, silicium, aluminium, fer. On parle de recyclage à 100%. On élimine le concept de site d'enfouissement avec ça. Ça, c'est une technologie qui existe aujourd'hui, sauf le nucléaire. Mais en fait, c'est que si un élément chimique est radioactif, ça ne sera pas une bonne idée de mettre ça à la table parce qu'on se trouverait mélangé avec tous les autres. C'est sûr que tout ce qui est nucléaire, l'humanité le gère assez bien, sauf la centrale du Japon. Parce que là, il y a beaucoup plus de radium qui est envoyé dans l'atmosphère à cause du centrale du Japon qu'à cause des centrales nucléaires. Parce qu'il y a du charbon mélangé dans il y a du uranium mélangé dans le charbon. Non, non. Les Américains lancent 1600 tonnes d'uranium dans. Alors, ce serait intéressant qu'il y ait un comité qui travaille sur ce projet-là pour voir, premièrement, aller visiter à Ottawa, essayer peut-être de venir prendre certaines prises de vue, des photos, voir, admettons, nous autres, à Saint-Sophie, on voudrait vider ce trou-là. Il y a 20 millions de tonnes de poubelles, ça coule dans notre souterrain. On a fait des calculs préliminaires, 100 millions de dollars pendant 20 ans pour vider le trou. Dans le processus, ça va générer environ 500 millions d'heures d'électricité, dont la moitié est nécessaire pour faire marcher l'usine. Fait que les 250 millions de dollars qui seraient demandés au Québec serviraient à payer l'investissement. au total, sur 20 ans, ça coûterait 0. Puis dans 20 ans, il y a des problèmes. Ça, c'est le genre de problème intéressant qu'on pourrait étudier davantage si jamais il y a. Donc, c'est des projets que, comme groupe, on pourrait toucher, qu'on pourrait rendre plus vivant, plus présent à l'esprit de ceux qui sont dans les partis politiques, entre autres. Puis là, évidemment, ça nous ramène toujours au principe du financement. Parce que ça, si on finance à 6% de ce projet-là sur 20 ans, on va le payer deux fois, ça ne marche plus financièrement. Et si on le payait, on le finançait à 1,1%. Ça fonctionne. Comme tout le monde à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez que tous les projets d'infrastructure vont nous ramener à la question de la politique monétaire aussi. Je trouve ça va ensemble. Mais bref, si on avait un groupe qui travaillait fort là-dessus, mais un jour, si il y a des audiences publiques sur différents sujets, donc justement la gestion des déchets, fait qu'on ait un groupe de chimistes, ingénieurs ou gens juste motivés qui ont travaillé dans ce sujet-là, ben, pour reproduire la mémoire, aller le présenter à Québec, on pourrait tranquillement, avec différents comités sur des sujets importants, devenir un groupe capable de conseiller même au niveau provincial. Ça pourrait devenir très intéressant à long terme. Donc, il y a un objectif à court terme qu'on peut atteindre. Produire les fameux 6 bouquets. Mais après ça, on peut aller encore plus loin. On peut aider certains députés à comprendre des choses. On peut devenir des députés. On peut donc, politiquement, ils vont plus s'impliquer. Mais d'avoir une masse critique, une masse dense de gens qui deviennent très compétents dans un sujet, qui peuvent donner des porte-paroles en notre nom, puis aller agir un peu partout. Ça, c'est. Fait que ces comités-là, ça peut devenir très intéressant. Puis à ce moment-là, sur le site web, on aura des travaux de ces gens-là qui avancent, des gens qui collaborent évidemment avec Internet, si on veut en parler. Fait que c'est un petit peu ça qu'on pourrait accomplir. Donc, à court terme, produire les bouquins, à moyen terme, les comités, pour aider à produire les bouquins, puis en même temps, éventuellement, jouer un rôle sur la scène provinciale. Fait que c'est, ça dépend de nous, tout ça. Puis, toute l'info existe. Je suis sûr que dans le monde, il y a d'autres efforts du même genre, en fait, je suis plus que sûr. On est témoin de ça dans Internet parce que les gens ont des sites web. Alors, il y a des gens qui font ce genre de travail-là dans le monde, mais peut-être qu'on n'est pas assez nombreux encore. Et donc, on est comme noyé dans ce qui est comme, entre guillemets, autorisé par les médias. Donc, il y a des choses qui sont impossibles dans le système de financement actuel de l'infrastructure. On dit que la caisse a peut être vite. Alors,
15 minutes.
Combien?
13.
Ah, oui. Mais globalement, en terminant, pourquoi on ferait ça, nous autres, sur une base personnelle? Pourquoi on passe une partie de notre vie à s'occuper de ça?
Ça serait peut-être un bon moment pour faire le tour.
Ouais. Et tantôt, comme ça, quand Simon aura parlé de l'édition du site web, ce serait le fun de vous nous donner cette réponse-là. Moi, celle que j'ai envie de vous dire, c'est que. Au fond, lorsqu'on aura passé à travers le premier bouquin, on veut parler du concept que l'humanité, ça peut devenir la plus grande force organisatrice de la biosphère. Actuellement, sur la biosphère, la vie, en utilisant l'énergie du soleil, transforme la croûte terrestre trois fois plus vite que l'énergie qui est dans la Terre, qui fait bouger les plaques tectoniques et tout ça. La vie, déjà, est la plus grande force organisatrice de la croûte terrestre. Pas juste la partie vivante, même la partie. Donc, disons, donc, l'accumulation de minerais, charbon, etc. C'est la vie qui fait qui brasse la croûte terrestre plus que l'intérieur de la Terre. Déjà, la vie est la plus grande force organisatrice sur la Terre. Maintenant, nous, on est conscients de nos processus créatifs. Puis, on a le potentiel de devenir la plus grande force organisatrice de la biosphère, mais là, de façon consciente, avec une intention. Puis, on va tous un jour disparaître. Puis quand on va crever finalement, juste avant qu'on va regarder en arrière, qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir des êtres qui auront été partie prenante d'un projet humanité, la plus grande force organisatrice même du système solaire? Dans le fond, que nos vies s'inscrivent dans le plus grand projet possible sur la Terre, ça peut être intéressant. C'est sûr que je ne vais pas prendre trop de temps, puis de toute façon, il y a des choses que je n'ai pas introduites, là, mais. Dans le fond, est-ce qu'être un être humain, c'est pas faire partie de ce grand principe organisateur sur la planète? Moi, personnellement, c'est ce qui me motive. J'ai l'impression que de contempler notre potentiel humain, de vouloir contribuer à le mettre en marche, j'ai l'impression que dans ce temps-là, je suis vraiment humain, au sens le plus complet du terme, et conscient de ses propres processus créateurs, conscient de l'effet qu'on peut avoir sur l'univers, surtout dans la biosphère pour commencer. On a déjà envoyé des sondes sur d'autres planètes, puis on projette d'aller marcher sur la Lune. Potentiellement, on est sans doute ce qui est le plus puissant et le plus beau. On est les seuls à pouvoir redonner la vie au désert. On est les seuls à pouvoir assurer qu'il n'y aura pas des millièmes glaciations. Ben, être partie prenante d'un projet comme ça, c'est intéressant. C'est le fond de... Moi, personnellement, c'est ce qui m'a fait utiliser ça comme ça. Alors, de toute façon, c'est parce que je vais y revenir abondamment là-dessus. Il y a beaucoup de discussions, mais pour lesquelles, comme je disais, je ne vais pas parler des idées qu'il y a derrière, donc je ne vais pas m'aventurer trop aujourd'hui. Alors, pour la suite de la soirée, on va avoir un bel outil. Vous savez que c'est difficile à rassembler. Là, ce qu'on a fait la soirée, c'est héroïque. D'un parti politique, là, quand on a réussi à ramasser 30-40 personnes à la même place la même journée, là, c'est quelque chose. Et puis, qu'on soit déjà une quinzaine à France, c'est un exploit. Fait que c'est difficile. On est soit rares, donc il y avait plein de contraintes. On est soit étudiants, on a plein de sessions. C'est pas facile. Fait que, on a Internet aujourd'hui. Puis, Éric et Simon travaillent fort, puis ils ont un projet de présenter. Simon, il travaille tard hier soir là, pour que certaines choses fonctionnent, vous les montrer. Alors, ils sont en train de monter un outil super performant qui va nous permettre de travailler ensemble. Puis, j'aimerais que Simon nous en parle.